Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B et au sommaire ce mardi, l'info du jour, L214 qui alerte sur le bien-être animal dans une ferme du département, reportage à l'hôtel Pasteur qui se prépare pour un rendez-vous du 2 sur le thème des voyageurs, il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview avec le collectif citoyen de Guichin qui cogite sur l'énergie éolienne et puis recommandation à un forum sur la mobilité internationale au 4 bis information jeunesse. Bienvenue dans l'arène. Chaque jour, c'est la même chose. On commence cette émission avec l'info du jour que je sélectionne pour vous dans la presse locale ou qui nous est parfois directement communiquée. Alors que la mobilisation sociale des agriculteurs se poursuit en Ille-et-Vilaine comme ailleurs en France, un mot sur l'alerte de L214, association de défense du bien-être animal. Dans une nouvelle vidéo, l'asso alerte sur la situation catastrophique d'un élevage bovin entre Rennes et Saint-Malo et reproche à l'État, on le lit dans un article de France 3 Bretagne, je cite, de ne pas assez agir dans le suivi et l'accompagnement d'une filière touchée par les difficultés économiques et donc à risque. En effet, les élevages de bovins pour la production de viande sont les productions qui affichent le niveau de vie le plus faible aujourd'hui. Sur ces images, on y découvre des vaches et des veaux qui s'enfoncent profondément dans du lisier. Certains animaux ont trouvé la mort et cette mare là de lisier se révèle être un lieu de passage pour accéder à de la nourriture avec une eau décrite comme croupie. En plus de ça, ajoutons que les animaux semblent vivre dans des parcs délabrés, sans litière et sans endroit sec pour se coucher. Le parquet de Saint-Malo a été saisi par l'association L214 avec une plainte déposée pour abandon et mauvais traitement. Objectif principal, secourir ces animaux rapidement et prévoir un placement en refuge. Les services vétérinaires de la préfecture ont aussi été prévenus, une situation dont ils étaient déjà informés et qui durerait depuis des années. Une pétition est par ailleurs à retrouver en ligne avec plus de 34 000 signatures déjà récoltées. Je lis enfin sur le site d'information actu.fr, pour terminer sur une meilleure nouvelle, que les services vétérinaires et la gendarmerie se sont rendus sur place ce mardi pour évacuer les animaux et les mettre en quarantaine. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Et je vous emmène au premier étage de l'hôtel Pasteur dans le centre de Rennes qui accueille jusqu'à ce week-end l'exposition Traversée, le résultat d'une démarche d'archivage menée par le photographe rennais Antoine Leroux. Il a adopté le point de vue de gens du voyage qu'il a rencontré pour questionner l'environnement sur les aires d'accueil dédiées. Dans le prolongement, l'hôtel Pasteur organise un rendez-vous du 2 sur ce thème. Ça se passe ce week-end avec d'abord une projection jeudi 1er février et puis une rencontre le vendredi à l'hôtel Pasteur. Et on y retrouvera entre autres la librairie Comment dire. Pour plus d'infos, il y a toujours le site hôtelpasteur.fr.
C'est qu'il y a des aires d'accueil, c'est cher et puis en plus de ça, c'est pas, on va dire, c'est pas trop, des fois c'est pas trop aux normes, c'est sale.
C'est sale. Et elles sont trop éloignées des villes des fois, et des bois. Voilà. Par exemple, pour aller faire les commissions au magasin, pour aller emmener les petits des fois au médecin.
Voilà.
Des fois, on en a vu nous en Sarthe, elles sont à 3-4 km du bourg. Alors ça fait loin. Moi, ma femme, elle a pas de permis. Moi, quand je pars travailler le matin, ben, c'est juste quoi. On n'est jamais tout seul, mais bon, quand même.
Donc bonjour, moi je suis Gwenola, Gwenola Drier, et je travaille à l'hôtel Pasteur, qui est ce lieu rennais dans lequel nous sommes. Et je suis à la coordination générale du lieu, mais on se présente aussi comme les concierges ici, dans l'équipe salariée. On est toutes un peu co-concierges, voilà. Alors l'hôtel Pasteur, c'est un bâtiment fin 19e, donc un peu monumental, qui est dans plein cœur de Rennes, mais qui est investi, qui est partagé avec une école maternelle, un EduLab et donc un hôtel à projet qui est porté par une association collégiale. Et l'idée, c'est vraiment que voilà, les étages du bâtiment soient investis par des personnes, des collectifs, des structures, vraiment dans tous les champs disciplinaires, mais avec une forme de rotation permanente en fait, des projets. C'est ouvert au public tous les jours, du lundi au samedi, en circulation libre.
On y trouve qui en ce moment?
Et alors, en ce moment, on y trouve par exemple Antoine Leroux, avec l'exposition Traversée, dont on va vous parler aujourd'hui. Et on va vous parler aussi justement d'un rendez-vous qu'on met en place maintenant régulièrement, qu'on appelle le rendez-vous du 2. Et qui donne l'occasion en fait justement de se retrouver à Pasteur, de se rassembler autour de projets portés par les hôtes du lieu. Et là, en l'occurrence, c'est autour du projet d'Antoine Leroux que ce rendez-vous est inventé. C'est vraiment l'idée de changer les formats régulièrement, mais par contre d'avoir quand même une récurrence, donc un rendez-vous, une sorte de rituel en fait. Donc les deux de chaque mois, mais en même temps, comme à l'hôtel Pasteur, on aime bien déroger à la règle, c'est pas forcément mensuel. Voilà, donc en fait, c'est vraiment l'idée de laisser aussi la possibilité aux autres d'avoir le choix, si en tout cas ils veulent s'emparer de ces deux-là, d'initier un moment qui puisse rassembler. Donc deux, c'était un peu symbolique parce qu'on est aux deux places Pasteur, donc ça donne un petit peu une clé sur aussi le lieu et l'emplacement, la localisation géographique, mais c'est aussi parce que en fait c'est un moment de rencontre et que voilà, il faut être au moins deux pour se rencontrer, mais évidemment on peut être bien plus. Je donne quelques pistes pour les prochains deux. Le 2 mars, c'est autour d'hôtes qui sont dans le lieu actuellement sur un séjour de 3 mois au quotidien dans le lieu, donc qui sont l'association Braise Insertion Sport, et du coup ils vont faire un samedi 2 mars dédié aussi au sport dans le bâtiment in situ. Et puis, on sait aussi que le 2 juin, par exemple, ça tombe un dimanche et ce sera aussi un grand moment festif. Certains ont peut-être pu vivre le 2 décembre dernier, où, du coup, qui a rassemblé aussi autour de la fête à Pasteur. Voilà, donc à chaque fois, en fait, on réinvente. Donc ça peut être des moments de réflexion, de débat, parce que effectivement, c'est aussi faire émerger des sujets qui sont portés par les autres du lieu. Mais ça peut être aussi, évidemment, des moments de fête et de rassemblement surtout. Voilà.
On est dans une salle avec une hauteur de plafond très importante, beaucoup, beaucoup d'espace, et puis avec des murs qui sont dans leur jus aussi. Et ce qui représentait un petit défi quand même pour moi, puisque du coup il y a beaucoup de choses visuellement qui se passent dans cette salle. Antoine Leroux, je suis photographe, je suis également chercheur et j'habite à Rennes.
C'est quoi le point de départ donc à ce travail d'archivage, on va dire, de l'environnement autour des aires d'accueil des gens du voyage? On ne voit pas de visage dans cette exposition, c'est ce qu'il y a autour, ça a commencé quand ce projet?
Pour moi, le point de départ, c'est la question du point de vue qui est inhérente à la position de l'artiste et en particulier dans la photographie. Le point de vue est vraiment un élément qui se travaille. Et pour moi, au fur et à mesure des questions que je me suis posées en abordant cette thématique des aires d'accueil en France, on va dire, c'était vraiment cette mise à l'épreuve du point de vue. Comment réfléchir sur cette question du point de vue? Et en l'occurrence, ce qui était important pour moi, c'était aussi de ne pas forcément prendre la place de personnes qui étaient concernées par ces questions directement, de ne pas parler à leur place. Donc assez rapidement, en fait, j'ai eu besoin de renverser ce point de vue, justement, en me mettant peut-être là où ces personnes habitent et en regardant vers dans la direction où ils regardent eux aussi, quoi. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'a émergé cette possibilité de s'intéresser au paysage et pas à eux en tant que tel, mais plus à ce qu'ils voient et quel impact ce qu'ils voient peut avoir sur leur propre vie, leur propre expérience de ce paysage aussi. Voilà. Alors c'est un projet qui a émergé il y a une dizaine d'années à peu près, mais l'ensemble photographique qui a été produit pour cette exposition, il a été démarré à la sortie du Covid, en fait, 2020-2021. Il a été fait en collaboration avec la FNASAD, qui est la Fédération Nationale d'Associations de soutien aux gens du voyage et aux Tziganes, qui est une grande fédération d'associations. Et l'idée, voilà, c'était de faire une archive visuelle de ces paysages. Et les aires d'accueil qui ont été identifiées pour être photographiées, en tout cas dont le paysage a été identifié comme important à photographier, il y a à peu près une trentaine d'aires d'accueil que j'ai photographiées qui se situent sur la partie est de la France. Alors j'ai pas choisi particulièrement de photographier des aires d'accueil qui se situent sur la partie est de la France. C'est juste que voilà, les problématiques que je m'étais imposées ont fait émerger un certain nombre d'aires d'accueil qui étaient situées sur la partie est de la France. Donc on va de la métropole lilloise à la métropole marseillaise, en passant par la métropole lyonnaise et la région parisienne. Je me suis un peu arrêté dans la Somme aussi.
Quels sont les éléments notables donc de ces paysages qui s'offrent aux gens du voyage? Il y a souvent des gros cailloux qui reviennent, c'est peut-être l'élément le plus notable, non?
En fait, j'ai procédé par typologie, c'est-à-dire que en identifiant les aires d'accueil qui me paraissaient problématiques, il est apparu que les voyageurs qui vivent sur ces aires d'accueil sont confrontés à des bâtiments ou à des types d'industries qui sont source de nuisances, source de pollution. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à faire émerger comme ça plusieurs catégories de lieux. Les installations électriques, les carrières, les cimenteries. Et les rochers constituent une de ces catégories. Ce n'est pas des rochers qui sont là par hasard, c'est des rochers qui constituent un dispositif d'entrave, en fait, qui empêche les gens du voyage de s'installer à certains endroits, quoi. Et en fait, on les retrouve beaucoup autour de certaines aires d'accueil, puisque l'aire d'accueil, telle qu'elle a été conçue, elle désigne des emplacements où les voyageurs peuvent s'installer, mais en miroir, en fait, elle interdit sur tout le reste du territoire l'installation des voyageurs.
Est-ce que vous avez des éléments sur ce que ça produit chez les gens du voyage que vous avez pu rencontrer ?
Ça produit des effets qui peuvent être variés, au-delà des effets qu'on peut attendre quand on vit à côté d'une cimenterie ou d'une usine de traitement des déchets de l'industrie du verre. Ça induit des soucis de santé qui sont dans certains cas documentés, notamment sur l'aire d'accueil d'Hellemont-Ronchin dans la métropole lilloise, ou sur cette aire d'accueil qui est coincée justement entre deux usines qui produisent énormément de poussière, énormément de particules qui retombent sur l'aire d'accueil à Villeparisis. Les usagers de ces aires d'accueil ont des antécédents médicaux et peuvent prouver la récurrence de certains problèmes et la spécificité aussi de certains problèmes de santé, quoi. Après, il y a un autre effet auquel moi je réfléchis beaucoup et que j'essaie de mettre en évidence aussi dans la façon dont j'ai photographié les choses, c'est cette question de la position des voyageurs eux-mêmes dans la société, qui est finalement une position très marginalisée en fait, et qui se cristallise autour de cette position dans laquelle on les met aussi sur le territoire, quoi. Donc il y a ce que ça produit aussi sur le plan symbolique pour ces personnes-là, le sentiment d'être déclassé, d'être mis dans des positions qui sont à l'extérieur de ce qui se passe pour le reste de la société et de la ville, ouais, bien sûr.
L'idée, c'était vraiment de construire aussi avec Antoine des discussions, des échanges et d'être accompagné par d'autres acteurs qui peuvent être du coup plus ancrés localement, ou puisque justement on a évoqué que là dans le panel photographique il y avait un inventaire qui était plus relié à l'est de la France. Là en l'occurrence on a voulu aussi ancrer en fait quand même le projet et puis voilà aussi avoir plusieurs types de médias pour continuer à se nourrir sur ces questions-là et à les partager surtout avec les personnes concernées aussi directement. Donc il y a Emmanuel Lacoste par exemple qui va présenter du coup son document qui a été réalisé à Rennes, qui va être présenté au cinéma Larvor, qui s'appelle Les Autres Chemins. Et donc ça, c'est jeudi 1er février à 20h15 au cinéma Larvor, en sa présence.
Eux, il faut qu'ils te formatent comme eux, ils ont décidé, c'est comme ça. Toi, c'est eux qu'on les dise pour te tenir, t'es prisonnier pratiquement. T'es prisonnier d'un système. T'es prisonnier du système maintenant, c'est ça.
Et donc le lendemain, le 2 février, dans le cadre de ces rendez-vous du 2, donc à partir de 16h, on accueille William Acker. On travaille souvent avec les éditions du commun, on avait repéré cet inventaire. C'est vrai que c'est un gros travail assez inédit qu'a réalisé William Acker et qui donne des éléments aussi historiques, sociologiques, qui nourrit vraiment bien via cet inventaire aussi ces questions-là des aires d'accueil. Et on est vraiment très heureux de l'accueillir. En plus, du coup, ça correspond à la sortie en version poche du bouquin « Où sont les gens du voyage ?». Et ensuite, on accueille aussi, du coup, à partir de 17h, un autre auteur, donc Logan Descarvalho, qui lui a écrit un roman. Donc lui, il est aussi issu de, tout comme William Acker d'ailleurs, il est aussi voyageur, issu en tout cas de famille de voyageurs. Lui, c'est plutôt sa mère. Lui, il est sédentaire aujourd'hui, même s'il est comédien, du coup, et quelque part intermittent, ils sont presque plus nomades que certains voyageurs. Il a écrit un roman sorti donc chez Payot, qu'on va aussi redécouvrir, dont il va lire des extraits, qui s'appelle « Ma sœur est une gitane », et qui raconte justement son rapport en fait à sa sœur qui, elle, vit aujourd'hui en caravane. Et il a aussi créé un spectacle qui s'appelle Moitié Voyageur, qui raconte un peu ce ressenti un peu de transfuge qu'il a d'être un peu dans cet entre-deux, et que quand il est avec le voyageur, bah, il est le comédien et c'est un autre monde, et quand il est avec les comédiens, et quelque part, il est la famille des voyageurs et des gitans, et voilà, il raconte toutes ces représentations et ces clichés qui sont encore aujourd'hui quand même très ancrés dans nos sociétés, quoi.
Il y aura aussi un regard politique, puisque ce sont des sujets dont s'emparent les politiques locales, notamment dans Rennes Métropole et en Ille-et-Vilaine.
Oui, voilà, on a invité aussi AGV35, parce que ça nous semblait aussi important vraiment de, justement d'ancrer localement. Et cette question de la fabrique de la ville, elle se fait évidemment avec les politiques publiques. Donc AGV35, qui est un groupement d'intérêt public, et Rennes Métropole, qui a cette mission depuis longtemps aussi. Et c'est vrai que, comme la situation, le contexte en fait a évolué aussi ces dernières années, avec des schémas d'orientation. C'est aussi des intervenants qui vont nous permettre de comprendre et peut-être voilà, de partager avec les différentes personnes présentes un peu sur ces questions-là.
Ok, bossé, podia ser, par Milton Nascimento sur Canal B. Je l'ai bien prononcé, je crois à peu près. C'était le choix musical d'Antoine Leroux qu'on vient d'entendre dans un reportage. Un morceau à retrouver sur l'album Clube da Esquina qui est sorti dans les années 70. Album collectif puisqu'il a été imaginé par Milton Nascimento et Lo Borges, deux musiciens brésiliens. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, mais vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur le site canalb.fr. Et tiens, saviez-vous que l'émission d'info locale a déserté depuis un petit moment déjà les réseaux sociaux? Désormais, pour suivre un peu le programme de ce qu'on y raconte dans cette émission, je vous propose une newsletter, le courrier de la Reine, qui est envoyé aux abonnés chaque vendredi. Si vous souhaitez vous y abonner, il est toujours possible d'envoyer un petit message à l'adresse lucie@canalb.fr. On poursuit l'émission du jour avec une interview. Brenda et Julien, bonjour.
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 On se retrouve à distance pour annoncer une rencontre débat sur le thème de l'énergie éolienne, des projets éoliens. Cette rencontre, elle est organisée par votre collectif citoyen installé à Guichen. Et pour l'événement, ça se passe vendredi 2 février à partir de 19h au Hall de Guichen. Guichen, une commune de un peu plus de 8000 habitants qui est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes et dont la municipalité planche, mais comme tout un tas d'autres territoires, sur le développement des projets éoliens depuis une loi adoptée au printemps 2023 et qui vise à accélérer le développement des énergies renouvelables sur le territoire. C'est dans ce contexte que s'est monté votre collectif à la fin de l'année. C'est bien ça, Brenda, Julien ?
Exactement. Durant toute l'année 2023, il y a eu des rumeurs qui couraient, comme quoi il y aurait des projets éoliens qui se développerait sur Guichen, sans trop savoir exactement d'où ça venait et de quoi il s'agissait. Et on a eu une publication dans le journal municipal au mois de décembre, faisant mention effectivement de cette loi dont vous avez parlé, la loi de mars 2023, et qu'il y avait une concertation citoyenne qui était ouverte sur 15 jours, entre le 15 et le 30 décembre. Et nous avons décidé d'interpeller et de mobiliser la population, déjà et d'une pour rectifier ce défaut démocratique, puisque à notre sens, les choses allaient beaucoup trop vite, et d'essayer de réfléchir ensemble sur cette question-là.
Vous êtes combien aujourd'hui dans le collectif et ce qui vous réunit, c'est d'être inquiet contre le développement de projets éoliens? Il y a peut-être différents profils?
Effectivement, il y a différents profils. Ce qui fait le commun et la mobilisation réactive qu'on a eue, puisque finalement, ça fait maintenant peut-être 5 semaines qu'on est sur cette question, c'est effectivement la menace et la peur que pouvaient représenter les éoliennes à 500 mètres des habitations. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cet éventuel parc éolien. On a compté près de 1000 personnes qui seraient impactées. Et aujourd'hui, dans le collectif, c'est difficile de savoir exactement combien de personnes nous suivent, mais on peut dire que sur la liste de diffusion qu'on a créée, il y a maintenant près de 180 personnes qui suivent nos échanges. On a fait différentes réunions chez l'habitant, des réunions publiques et assemblées citoyennes, dont la dernière assemblée citoyenne a réuni 110 personnes. Et on a aussi créé des groupes de travail sur différentes thématiques autour de l'éolien et des énergies renouvelables qui réunissent entre 5 et 10 personnes sur chaque groupe qui sont au nombre de 6.
Il faut préciser qu'il y a une échéance là qui approche, puisque les élus de la commune de Guichen ont jusqu'au printemps là 2024 pour désigner, on va dire, des zones propices au développement d'un tel projet. Votre collectif, c'est un collectif de citoyens qui s'est donc lancé sur le territoire de Guichen. Est-ce qu'il y a des discussions qui ont été initiées avec la municipalité ?
Alors oui, suite à la mobilisation qu'il y a eu, on a eu tout d'abord des consultations avec les élus. Et puis, vu la mobilisation, la mairie a choisi de nous proposer de travailler ensemble, donc à partir de janvier et jusqu'au 31 mars, voire plus si on n'a pas réussi à trouver exactement le résultat de notre travail.
Vous, dans votre collectif citoyen, votre idée, c'est d'essayer de mieux comprendre ces enjeux liés aux éoliennes, notamment les impacts sur l'environnement. Vendredi prochain, vous faites venir des agriculteurs, agricultrices lors d'une rencontre qui vont justement pouvoir permettre d'alimenter un petit peu la réflexion concrètement de quel impact on parle sur les humains et puis aussi sur le reste de la biodiversité, sur la faune notamment.
Oui, effectivement, il y a plusieurs angles d'approche sur la question de l'éolienne. On a découvert l'ouvrage de Sue Berger qui a travaillé sur la question, donc sur son roman graphique Le Prix du Vent, où effectivement elle fait toute une étude sur les impacts au niveau des différents écosystèmes et sur les humains, sur les populations qui sont concernées. Donc c'est à ce titre que nous l'invitons. Et effectivement, une exploitante agricole qui est directement impactée sur son exploitation, notamment sur les impacts des éoliennes sur sur ces élevages, puisque c'est une dimension qui est assez importante, sera présente également pour témoigner de son histoire.
Sur les impacts sur la santé, il y a très peu d'études qui existent, que ce soit dans un sens ou dans un autre, malgré de nombreuses années de demandes de certaines associations d'avoir des vraies études sérieuses. Et pour le coup, comme le collectif cherche à rassembler le maximum d'informations pour se faire un positionnement, donc c'est pas une mobilisation en opposition, mais en volonté de comprendre les enjeux qu'il y a autour des éoliennes. Et à défaut d'avoir des études sérieuses, on cherche les différentes sources de renseignements. Et il se trouve que cette journaliste et autrice de la BD, donc Le Prix du Vent, a fait une enquête auprès de 110 personnes qui sont impactées par les éoliennes d'un point de vue santé. Et notamment, du coup, effectivement, il y a cette question santé sur les humains, mais aussi sur les élevages. Et dans le cas de Guichen, il y a 3 élevages qui seraient concernés par les éoliennes.
Et alors, l'agricultrice là, que vous avez mentionnée, qui sera présente vendredi, il s'agit de Pascale Durand, qui est installée à Crévin, donc commune en Ille-et-Vilaine, sur la route de Bain-de-Bretagne. Quelques mots là de son témoignage. Donc, elle est installée sur une ferme située sur une faille d'eau qui court en souterrain jusque dans le sous-sol du parc éolien. L'électricité s'y engouffre. Concrètement, dans la ferme, les bêtes et les hommes ont les pieds sur des niveaux d'électricité qui ne sont pas acceptables pour notre santé. Et le problème s'aggrave dès que les machines se mettent à tourner. Un extrait du témoignage qu'on retrouve dans cette bande dessinée, Le Prix du Vent, des éoliennes, des bêtes et des hommes, qui est paru en 2022 aux éditions du Rocher et signé de Sue Berger, qu'on pourra rencontrer vendredi. On sait que les projets éoliens, ils suscitent régulièrement l'opposition des riverains et que les élus doivent un peu composer avec, puisque ces éoliennes, elles peuvent être installées à partir de 500 mètres des habitations. Moi, j'entends évidemment l'inquiétude de se retrouver avec une éolienne près de chez soi. L'éolien reste plus propre, moins sale qu'une énergie fossile. Je ne sais pas comment le formuler. On est d'accord là-dessus. La question, c'est peut-être d'essayer d'informer de façon plus transparente, de songer à des endroits vraiment adéquats pour le développement de ce type de projet.
Oui, effectivement. Ce qui est ressorti dans nos échanges lors des réunions citoyennes et de l'Assemblée citoyenne du 9 janvier dernier, c'est que je crois que l'ensemble des citoyens sont véritablement conscients des enjeux énergétiques, environnementaux et climatiques auxquels nous devons faire face. Il y a vraiment une vraie prise de conscience, et d'ailleurs cette réalité qui vient frapper à nos portes nous le rappelle et nous pousse à la réflexion. Et je crois que ce qui se passe, en tout cas ici à Guichen, c'est d'entamer une réflexion pour voir comment est-ce que une commune comme Guichen peut prendre sa part dans ce changement qui est nécessaire, mais de voir comment le faire en harmonie avec l'environnement et avec les habitants, en essayant d'envisager toutes les possibilités d'énergie renouvelable. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoins et de recherches qui ont été faits sur le photovoltaïque, sur l'agrivoltaïsme, etc., etc., pour voir comment est-ce qu'on pouvait répondre à cet enjeu-là.
Je vais vous représenter tous les deux, Brenda et Julien, donc membres du collectif citoyen de Guichen, qui interroge donc les conséquences du développement de l'énergie éolienne. Vous organisez une rencontre-débat, ça se passe vendredi 2 février à partir de 19h au hall de Guichen. Pour plus d'infos, il y a le site internet librairie-refuge.com, puisque c'est votre partenaire sur cet événement. Le prix est libre, mais les inscriptions sont fortement conseillées pour y participer. On y retrouvera donc Sue Berger pour sa bande dessinée sur Le Prix du Vent, dans laquelle on apprend, entre autres informations, que d'après la Ligue de protection des oiseaux, la LPO qui est implantée notamment en Bretagne, ce sont 45 000 oiseaux qui mourraient chaque année à cause des éoliennes implantées sur le territoire. J'ai juste aussi noté le site, alors plus institutionnel, vie-public.fr, où on trouve tout un tas d'informations, pour le coup, sur les incidences des projets éoliens, incidences qui sont présentées, en tout cas, sans mesure avec les moyens de production conventionnels que sont les énergies fossiles et nucléaires. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup à vous.
Tout ira bien. Tout ira bien.
Cabane et le morceau « Tout ira bien ». C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, et que vous pouvez retrouver sur un album « Brûlé » sorti le 26 janvier sur le label Cabane Music. Et alors Cabane, eh bien, c'est le projet du musicien et photographe belge Thomas Jean Henry qui présente avec ce disque la deuxième partie d'un triptyque à suivre. Donc, vous écoutez La Reine sur Canal B. Pour la recommandation du jour, on annonce rapidement un événement au 4 bis Information Jeunesse, le lieu associatif pour accompagner les jeunes de la métropole dans leurs projets, et il s'agit du traditionnel forum mobilité internationale organisé donc mercredi 31 janvier de 13h à 18h, et c'est en partenariat avec le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse Bretagne, et une association jeunes à travers le monde. Les 15-30 ans trouveront lors de ce forum de quoi s'informer sur toutes les façons de partir à l'étranger, de financer son voyage aussi, avec un zoom sur les opportunités en Allemagne. Des professionnels seront aussi présents, la Maison de l'Europe, le réseau Bretagne Solidaire ou encore Solidarité 35 Roumanie. Et puis un temps de goûter et de témoignages est prévu sur les coups de 17h. Pour plus d'infos, le mieux c'est d'aller sur le site le4bis-ij.com. Je vous propose enfin d'écouter un dernier contenu, le premier d'un podcast en 3 épisodes, réalisé en partenariat avec la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine, et qui fait suite à une conférence qui a été organisée il y a quelques semaines avec Claude Martin. Faites comme si, pas comme ça. L'idée d'éduquer les parents à exercer leur propre rôle n'est pas nouvelle, mais avec l'émergence de la notion de parentalité au XXe siècle, un nouveau souffle a été donné à cet enjeu politique et social. Alors, comment se repérer face à des injonctions et des politiques parfois contradictoires? La ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement ont invité Claude Martin pour un podcast en 3 parties. Il est sociologue, spécialiste des politiques de soutien à la parentalité. Premier épisode, l'État et les parents, toute une histoire.
Pour introduire ça, il faut effectivement se souvenir que ce qu'on appelle aujourd'hui le soutien à la parentalité a eu des préfigurations. L'idée d'aider les parents à assumer leur rôle, ça se traduisait clairement par aider les mères à faire le mieux possible leur propre travail de mise au monde et d'éducation du tout petit. À l'époque, d'ailleurs, à la fin du 19e, c'était dans un contexte qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui, mais dans des plus petite proportion, de déficit démographique, d'insuffisance du niveau de natalité et d'un niveau de mortalité infantile qui était élevé. Donc c'était ça les grands chantiers de l'époque, c'était lutter contre cette mortalité infantile, c'était protéger les enfants de la violence ou de la mauvaise éducation, et puis bien sûr essayer déjà à l'époque de lutter contre la pauvreté des enfants pour qu'eux-mêmes ne deviennent pas des adultes pauvres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a mobilisé les pouvoirs publics, mobilisé les experts. Ils étaient médecins, ils étaient parfois juristes, ils pouvaient aussi être hauts fonctionnaires. Et ce débat sur les défis, au fond, de l'enfance ont concerné énormément de pays. Il faut évidemment réaliser que tout ça s'est accentué avec les périodes des deux guerres. Avant-guerre, déficit démographique, il fallait en effet faire des enfants. On disait à l'époque d'ailleurs les ventres de la patrie. Donc la vocation des mères, si elles voulaient travailler pour la nation, eh bien c'était de faire des enfants. Et puis il y a eu l'après-première guerre mondiale, la grande saignée de 14, qui a encore accentué ce déficit démographique dans des proportions tout à fait évidemment alarmantes. C'est à cette époque que les démographes ont calculé le nombre d'enfants moyens qu'il fallait par femme pour éviter, évidemment, que la France se dépeuple, sans faire appel à l'immigration. Donc les 2,1 enfants par femme, ça date de cette époque. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale est venue là-dessus renforcer encore l'enjeu, au fond, pour la puissance d'une nation d'avoir un niveau de fécondité approprié. Dans ce concert de préoccupations, les mères étaient la cible. Pendant la grossesse, après la grossesse et l'accouchement, pendant les premières années de vie de l'enfant, il fallait leur apprendre leur métier de mère. Et les médecins ont joué évidemment un rôle très fort. Dans cet épisode qui va donc du début du XXe jusqu'à l'après-guerre, il y a eu une petite poche particulièrement cruciale où on a beaucoup expérimenté, où on a beaucoup débattu, que sont les années 30. Alors ces années 30, elles sont marquées à la fois par cette question du déficit démographique, mais aussi par la préoccupation qu'avaient certains parents et lobbies de bien-pensants de l'époque qui estimaient que l'État en faisait trop, à certains égards, sur le volet de l'éducation des enfants, en estimant qu'on empiétait sur ce rôle propre. Et cette fixation s'est faite à l'époque sur la volonté qu'avaient les pouvoirs publics d'éduquer les jeunes filles à la sexualité, au collège ou au lycée, simplement pour leur donner une sorte de sensibilisation de ces questions qui, en fait, habituellement relevaient du rôle des parents. C'est sur ce sujet que s'est forgé un mouvement, puis une école, une association au départ, qu'on a appelée l'école des parents. L'école des parents est créée en 1930. Elle va bien sûr connaître beaucoup d'autres rebonds par la suite, surtout après-guerre, et elle continue d'exister aujourd'hui. On l'appelle l'école des parents et des éducateurs. Ça n'a pas du tout, d'ailleurs, la même résonance idéologique, puisque au départ, Madame Vérine, qui crée l'école des parents, est aussi une conservatrice. Et d'une certaine façon, elle s'inscrit dans le concert de l'époque idéologique qui parle de faillite morale, qui parle d'écroulement des institutions, qui parle de crise de la famille, et d'une certaine façon, on veut restaurer une certaine famille, celle qu'on pense évidemment universelle, que défendent ces militants, puisqu'il s'agit bien de militants. À cette époque, il vaut la peine aussi de distinguer un peu les deux modèles qui existaient sur ces questions en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qui explose à cette période, ce sont les savoirs sur l'enfance. Les Américains, d'ailleurs, parlent de « child studies ». C'est un champ de travail où les psychologues jouaient un rôle premier, mais ils étaient évidemment accompagnés de tous les médecins qui s'intéressaient à la petite enfance, dont les pédiatres. Ces « child studies » vont connaître un développement considérable. Et bien sûr, toutes sortes de théories vont émerger, en particulier immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on pense à la théorie de l'attachement de John Bowlby en Angleterre, qui montrait qu'en effet, quelque chose était premier sur le fait de se nourrir pour un enfant, c'était de faire son attachement à quelqu'un qui allait assumer la fonction maternelle. Ce n'était pas nécessairement d'ailleurs la génitrice. L'équilibre du développement de l'enfant dépendait de ce besoin d'attachement. Et puis enfin, après la Seconde Guerre, ces child studies vont se répandre vers l'Europe, et en particulier vers la France, et c'est là le moment où on peut dire qu'il y a l'explosion, littéralement, d'un marché du conseil aux parents, du conseil aux mères, et on a toutes sortes de figures qui apparaissent. Le best-seller de Benjamin Spock, qui en effet va former des générations et des générations de mères avec son ouvrage en 1946. Et puis on aura d'autres Américains. Et puis en France, on aura Laurence Pernoud, qui fait son premier succès de librairie pour éduquer les mères, en 1956. Et puis bien sûr, on aura après, toujours dans ce boom, les émissions de Françoise Dolto, qui va jouer un rôle tout à fait majeur pour populariser, au fond, les thèses de la psychologie, de la psychanalyse à l'égard de ces questions de parentalité. Et puis on verra aux États-Unis, enfin, apparaître l'explosion de la pensée positive, puis de l'éducation positive, et plus tard de la psychologie positive, qui va devenir un très fort courant de la psychologie et résonner jusqu'en Europe avec, beaucoup plus tard, la parentalité positive.
À travers son projet éducatif local, Rennes a l'ambition d'agir pour que chaque jeune puisse réussir et s'épanouir, quel que soit son quartier et son origine sociale. Tous les ans, la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine proposent des rencontres au public pour échanger sur l'éducation. Plus d'infos sur métropole.rennes.fr/éducation. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.